Non, c'est pas vrai, j'ai pas tout fait. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Backflip le public. Très heureux de vous accueillir ce soir sur ce plateau exceptionnel. Bonsoir à vous dans le chat. Bonsoir si vous nous regardez en direct sur Twitch, on est avec vous. Le chat est là sur le plateau avec nous. Bonsoir à vous si vous nous écoutez en podcast. Et bonsoir à vous si vous nous regardez en replay sur YouTube. Très heureux de vous accueillir pour une émission exceptionnelle ce soir. On va parler de plein de trucs. On va parler de politique, on va parler de... nucléaire, immigration, deux, trois sujets quoi. Mais avant ça, comme chaque semaine, on a le plaisir d'avoir un before. On va commencer cette émission en douceur avec un before de Backseat. Vous le savez, le before, lorsqu'il n'est pas sponsorisé, c'est l'occasion pour nous de vous présenter notamment des assos qu'on trouve trop cool. Et ce soir, on va parler de mode, on va parler de vêtements, de seconde main, on va parler de générosité et de fast fashion. Et ce soir, je suis avec Valérie Fayard. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci Valérie d'avoir accepté notre invitation dans le before de Backseat.
Merci à vous.
Valérie, tu es directrice générale déléguée d'Emmaüs, la fondation Emmaüs. Dans la presse depuis 24-48 heures, on lit des titres qui disent qu'Emmaüs est en train de se payer Vinted. Pourquoi ça? Qu'est-ce qui se passe?
Alors en fait, on a lancé aujourd'hui une campagne qui vise un peu à dénoncer les impacts des plateformes numériques de vente en ligne sur le réemploi solidaire et sur les associations comme Emmaüs.
C'est-à-dire, explique-moi, parce que on connaît Vinted, on connaît Le Bon Coin, on sait que c'est des sites qui sont très utilisés par les Français pour revendre des fringues de seconde main. En ces temps de pouvoir d'achat qui galère, c'est toujours quelques euros de prix. En quoi ça fait de l'ombre à Emmaüs?
Alors oui, on lance une campagne un peu offensive parce qu'on est un peu vénère. On est un peu énervé. Pourquoi?
Pourquoi?
Parce qu'en fait, nous, ça fait 70 ans qu'on fait de la collecte de produits d'occasion, qu'on trie, qu'on vend, qu'on répare. Et cette activité, elle a un objectif qui est un objectif social. Ce n'est pas un objectif lucratif. On ne cherche pas à faire du chiffre d'affaires pour rémunérer un actionnaire. On n'a pas d'actionnaire, ça fait bien. Voilà. En fait, cette activité, elle nous permet de proposer un travail, une activité à des milliers de personnes qui étaient précédemment dans la précarité. Ce sont les compagnons d'Emmaüs, salariés en insertion, qui vont venir dans les structures Emmaüs et qui vont occuper ces postes. Et donc, le chiffre d'affaires qu'on fait grâce à la revente des produits que les gens nous donnent nous permet de payer les charges liées à l'accueil et à l'accompagnement des personnes. On a fait ça pendant 70 ans. Pendant des années, c'était pas lucratif, ça n'intéressait personne, on nous a laissé tranquilles. Et puis, depuis quelques années, avec l'essor du marché de la seconde main, du réemploi, on a vu arriver sur ce marché des poids lourds, des entreprises marchandes avec un but uniquement lucratif, et notamment les fameuses plateformes de vente en ligne, Le Bon Coin, Vinted, etc. Ce sont des agents économiques qui ont des moyens qui n'ont rien à voir avec les nôtres. C'est David et Goliath. Je veux dire, eux, ils font des levées de fonds, ils ont des centaines de millions d'euros.
C'est des grosses boîtes, c'est des énormes
boîtes.
Et voilà,
qui ont comme objectif, comme toutes les entreprises, mais c'est légitime, c'est leur choix, la lucrativité et
pas,
la rémunération.
Et pas de but social particulier, à ma connaissance.
Et pas de but social particulier. Un but environnemental affiché, on y reviendra parce que ça, c'est
on en reparlera, ouais.
un peu sujet à caution. Bon, bref. Donc, du coup, ces entreprises arrivent. Et la conséquence pour nous a été qu'on a constaté une dégradation de la qualité de ce que nous collectons. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les gens, quand ils ont un produit dont ils ne se servent plus, autrefois, ils se disaient « bon, bah, je vais le donner à une asso », notamment à Emmaüs, qui était très connue. Aujourd'hui, premier réflexe, je vais vendre sur Le Bon Coin, sur Vinted ou sur d'autres plateformes, puisqu'il y en a plein. Donc, ce qui est de bonne qualité, ce qui est intéressant, on va le vendre pour récupérer quelques euros. Et puis, ce qui n'a pas été vendu ou ce qui est de moins bonne qualité, on va le donner à Emmaüs. Considérons qu'Emmaüs est un débarras. Mais Emmaüs n'est pas du tout un débarras. Parce que dans notre chaîne que j'expliquais tout à l'heure, donc la question des dons et du réemploi nous permet de financer notre projet social.
Ouais.
Ce qui nous permet ça, c'est ce qui a de la valeur et qui peut être revendu.
Oui, c'est-à-dire que si on vous refile que les trucs qu'on n'arrive pas à revendre sur des plateformes, vous n'arrivez pas beaucoup plus à les vendre en fait.
Exactement. Donc si on nous refile des trucs qui ne sont pas de bonne qualité, on va quand même s'en occuper. On va les mettre en filière de recyclage parce que nous, on veut traiter vraiment tout le gisement ou on le met en déchet si ça ne peut pas être recyclé. Mais ça ne nous rapporte pas d'argent, voire ça nous en coûte. Ce qui nous rapporte de l'argent, et encore une fois, l'argent, ce n'est pas pour faire de l'argent, ce n'est pas pour faire du chiffre d'affaires.
Non, c'est pour payer
c'est
les
pour
compagnons.
Pour payer les compagnons, les salariés en insertion, etc. Ce sont les produits qui sont de suffisamment bonne qualité pour pouvoir être réutilisés. Donc, un chiffre qui est très simple.
Ouais, donne-moi des chiffres, dis-moi.
Voilà,
en 20 ans, vous avez vu quoi comme évolution?
En 20 ans, on a vu une évolution qui est assez catastrophique. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, quand on collectait 100 tonnes, on pouvait en réutiliser 60.
Ouais.
Donc, ce gisement qui nous permet de payer notre projet social, aujourd'hui, c'est 40.
Ah, on est passé de 60% de réemploi à 40% seulement. Ah oui, d'accord.
Et c'est pour ça qu'on on voit cette tendance donc baissière de la qualité des dons. Et on s'est dit, il faut qu'on réagisse. Et contrairement à nos habitudes, il faut qu'on lance une opération de communication qui soit un peu offensive pour alerter les citoyens et les consommateurs sur ce phénomène.
Est-ce que tu peux nous redire quel est le circuit que va faire un vêtement qu'on va vous donner Il va être trié, il va être sélectionné, il va pas forcément être mis en vente. Tu peux nous refaire, nous
Alors, quand vous apportez votre vêtement, ou d'ailleurs autre chose, parce que là, on a utilisé Vinted, donc on parle beaucoup de vêtements, mais on collecte aussi des meubles, des livres, des jouets, de l'électro, enfin, on collecte tout ce que vous voulez bien nous donner. Donc, quand vous allez dans une structure Emmaüs avec le don que vous avez à faire, ou quand vous nous appelez pour qu'on vienne chercher chez vous, avec nos petits camions, tous ces produits, ça arrive dans un entrepôt, là, c'est trié. Si c'est en suffisamment bon état pour être vendu, ça va en salle de vente. On a 500 points de vente
partout en France.
Si ça n'est pas en assez bon état, mais que ça peut être réparé, par exemple des meubles ou de l'électro, ça part dans un atelier. On a plein d'ateliers avec des gens qui travaillent autour de la réparation. Et si malheureusement, ça ne peut être ni réparé ni vendu en l'état, ça va au recyclage. Et là, on a des bennes et ça part dans des filières de recyclage qui sont tout à fait bien tracées. L'important, c'est de savoir que tout ça donne du travail à 15 000 personnes, donc 7 000 compagnes et compagnons et 8 000 salariés, dont la moitié en insertion. Et l'ensemble du mouvement Emmaüs, c'est environ 70 000 personnes qui sont accueillies, hébergées, logées, etc. Donc tout cet écosystème, il fonctionne grâce aux dons. Donc la baisse de qualité du don, pour nous, c'est dramatique.
Vous êtes vénère, vous l'avez dit, vous avez lancé une campagne. On va regarder une petite vidéo tout de suite, on en parle juste après.
Les Français font de moins en moins de dons à Emmaüs et surtout de moins bonne qualité. Ils préfèrent vendre ce qu'ils n'utilisent plus sur les applications de seconde main. Résultat, c'est tout le modèle solidaire d'Emmaüs qui est menacé. Pour inverser la tendance, on a lancé un appel aux dons inédits directement sur la plus grosse plateforme de seconde main, Vinted. Emmaüs présente. Si tu ne le portes pas, donne-le.
Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux personnes qui se sont tournées vers ces plateformes ces dernières années pour vendre leurs vêtements? On peut comprendre aussi l'argument du pouvoir d'achat en disant que un don à Emmaüs, par définition, ça ne va pas nous rapporter grand-chose. Mmh. On serait très heureux de soutenir les compagnons, ce n'est pas le sujet, mais vendre des fringues, ça permet aussi de compléter un peu des ressources qui sont galères le reste du temps.
Alors nous, on ne cherche pas du tout à culpabiliser les gens. Hein. L'objectif de cette campagne, c'est de décrypter un peu, de dire aux gens, bon, si vous vendez sur une plateforme, vous avez tout à fait le droit de le faire, mais voilà à quoi vous contribuez. Si vous donnez à Emmaüs, voilà à quoi vous contribuez. La question du pouvoir d'achat et du fait que les gens aient besoin de ça pour arrondir leur fin de mois. C'est un vrai sujet. Et là, on voit bien, nous, on a de plus en plus de clients dans nos salles de vente. On voit bien que les gens, ils ont vraiment un vrai problème de pouvoir d'achat. Il y a un vrai sujet.
Ils viennent aussi à Emmaüs acheter des vêtements, d'ailleurs.
Acheter des vêtements. Mais en fait, il y a différentes études qui ont été faites, notamment par les plateformes, d'ailleurs, qui montrent que la très grosse majorité des gens qui vendent sur Vinted, ça n'est pas par besoin financier. C'est plutôt, en fait, l'espèce d'inscription dans un modèle de surconsommation. Je vends, j'achète. Un espèce de truc addictif.
C'est vrai que c'est un peu la phrase qu'on a déjà peut-être beaucoup entendue. Oh, au pire, je le revendrai sur Vinted. C'est vrai que j'ai déjà entendu plusieurs fois.
Mais d'ailleurs, Vinted avait fait une campagne à un moment qui était ça, qui était de dire, mais vous pouvez acheter, n'hésitez pas à acheter, parce que si ça va pas, vous le revendrez chez nous. Donc en fait, en même temps, ils disent qu'ils sont des acteurs de l'économie circulaire. Mais c'est pas ça, l'économie circulaire. C'est pas de surconsommer pour pouvoir revendre, pour racheter. Donc il y a un truc complètement addictif, un modèle de surconsommation que nous dénonçons aussi, parce que c'est pas du tout notre modèle de société. Et par ailleurs, il y a peut-être des gens qui sont obligés d'aller vendre leurs produits sur Vinted ou sur autre plateforme parce qu'ils ont vraiment des problèmes de fin de mois. Mais alors là, nous, on a un discours politique, c'est de dire, mais dans quelle société vivons-nous
pour qu'on ait besoin de vendre ses fringues?
On est dans une puissance industrielle où on est obligé de vendre ses fringues pour faire ses fins de mois. On se croirait à Budapest en 1956. C'est pas possible. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un problème dans ce pays de niveau de salaire, et ça on le dit, il y a un problème de minima sociaux qui sont insuffisants, il y a un problème d'inégalité, de répartition des richesses, et ça c'est un autre combat d'Emmaüs. Mais bon, c'est pas le sujet.
T'es pas venu les mains vides, Valérie, t'es venu avec des vêtements, montre-moi.
Avec des vêtements que je ne vous donnerai pas, mais vous pouvez les regarder. Donc c'est exactement les vêtements qui sont sur la vidéo. Donc si tu ne le portes pas, donne-le. Alors il y en a plein avec des typos différentes. Alors ce sont des fringues de seconde main, donc ce sont bien des trucs
que vous avez imprimés.
Voilà, qu'on a imprimés et floqués dans des groupes Emmaüs. Et il y en a plein de différents qui sont assez sympas avec différentes typos, etc. Donc l'idée,
et ça, vous les vendez sur Vinted?
Non, alors on ne les vend pas justement. C'est-à-dire que l'idée est assez marrante et bon, qui était un peu une façon de faire une campagne un peu offensive qui est aussi pour objectif de sensibiliser les jeunes, c'était de se dire, bon, on va faire de l'entrisme. En fait, on va rentrer dans Vinted.
Ah, vous avez raison, je trouve ça
marrant. On va faire des fausses annonces et les gens vont aller sur le truc parce qu'ils vont trouver ça sympa. Et quand ils vont cliquer, ils vont voir, ce vêtement n'est pas à vendre. Il est là pour interpeller, etc.
D'accord, ok.
Et ça marche très bien.
Oui, j'allais te demander, ça marche bien. Vous avez des clients Vinted qui disent, vous avez un retour assez cool, ça.
Ah oui, il y a un super retour. Alors nous, on s'attendait à ce qu'au bout de 3 heures, Vinted nous coupe le compte. Bah, pas du tout. Pour l'instant, ils n'ont pas réagi. Ils n'ont pas coupé le compte, donc on laisse les annonces.
Pas d'infos, même en off.
Pas d'infos, même en off. Voilà, donc pour l'instant, silence radio.
Bon, et comment est-ce qu'on explique, selon vous, cette fast fashion dont on parle de plus en plus, cette facilité qu'on a à acheter des fringues avec plusieurs saisons par an, avec des marques très connues qui vendent une quantité de fringues astronomiques chaque année. Comment on l'explique, ça?
Bon, il y a différentes explications économiques, sociales, etc. Il y a une explication économique. C'est vrai qu'avec la baisse du pouvoir d'achat, il y a des gens qui n'ont pas les moyens d'acheter autre chose que des fringues chez Shine, ça c'est sûr. Il y a aussi notre modèle social de la surconsommation où maintenant il faut avoir non pas 3 t-shirts mais il faut en avoir 25, il faut pas avoir un jean, il faut en avoir 15, et ça c'est un modèle de société que nous dénonçons par ailleurs, ouais. et qui d'ailleurs va à sa perte, et on le sait, pour des raisons environnementales et sociales. Aller produire dans des pays où les gens travaillent dans des conditions dramatiques, sur le plan environnemental, c'est dramatique parce qu'il y a des produits qui sont tout à fait nocifs, des choses dont on n'a pas besoin et qui vont alimenter une collection tous les 15 jours, on marche sur la tête. Et la question de la fast fashion est vraiment le pire des flux. C'est vrai un peu dans tous les produits, c'est vrai aussi dans les meubles, nous on le constate partout. Mais quand même, là, il y a un vrai sujet. Ce sujet, nous, on le dénonce. Et là, on pense que la puissance publique devrait faire quelque chose. Il devrait y avoir une pénalisation des metteurs sur le marché qui surproduisent dans ces conditions.
C'est ce que j'allais te demander. On connaît des chaînes comme H&M, comme CEA, etc. Moi, j'y connais vraiment rien. J'achète des fringues une fois par an quand vraiment j'en ai plus. Je me suis un peu lancé dans le prêt-à-porter, moi aussi, récemment. Enfin,
je vois pas beaucoup, mais...
Mais donc, du coup, est-ce que là aussi, en 10 ans, 20 ans, vous avez vu une évolution dans cette fast fashion? Vous voyez qu'il y a des collections qui sortent encore plus souvent, qu'on brade de plus en plus. On a vu qu'en plus, il y a eu des modifications dans les lois ces derniers temps sur les périodes de soldes. Maintenant, on peut faire des soldes encore plus souvent, des prix encore plus agressif, ça aussi, c'est un constat que vous faites?
Complètement, parce que le textile, c'est le premier poste de vente dans les structures Emmaüs, devant le meuble. Donc, les chiffonniers d'Emmaüs, ça date pas d'hier. Donc, le textile est très important pour nous. Et on voit la baisse de qualité, elle est due au phénomène dont j'ai parlé de vente ailleurs. Donc, il y a un flux qui part, mais elle est aussi due, effectivement, à la baisse de qualité de ce qui est mis sur le marché. Et ça, c'est tout à fait frappant. Et tous les gens qui travaillent dans des Emmaüs depuis longtemps nous disent, mais par rapport à il y a 20 ans, la qualité, elle n'a absolument rien à voir. Donc, il y a vraiment un problème, alors qu'il commence maintenant à être bien appréhendé, il commence à y avoir des mesures, etc. Ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a des marques comme H&M, par exemple, qui font, soi-disant, des collections éthiques. Alors ça, c'est quand même très rigolo, quoi.
Ah oui, vous les trouvez hypocrites?
Évidemment, complètement, puisque eux, ils agissent complètement, ils sont complètement acteurs de cette surproduction, etc. Les 3/4 des choses qu'ils fabriquent sont faites dans des conditions qui sont lamentables, et ils vont aller prendre un tout petit truc, ils vont dire, là, c'est du coton recyclé, là, c'est fabriqué en Europe, etc., mais c'est peanuts, et ils mettent un corner bien en vue dans la boutique, et avec ça, ils se disent qu'ils ont reverdi leur image. Non.
Il y a quelques années, vous avez lancé un shop en ligne aussi, une manière aussi pour vous de faire concurrence au Bon Coin, à Vinted, etc. Ça s'appelle Label Emmaüs.
Oui, tout à fait.
Ça s'appelle Label Emmaüs. Là, on peut acheter ses vêtements auprès d'Emmaüs directement sur le site. Ça marche bien?
Oui, ça marche bien. Donc, Label, ça veut dire la boutique en ligne Emmaüs. On a lancé ça il y a 6 ans en se disant, le digital, c'est quand même un vecteur. En plus, il y a 500 points de vente, comme je le disais, mais il y en a quand même pas partout. Donc, il y a des gens qui n'ont pas un Emmaüs à côté de chez eux. Comment est-ce qu'on investit le digital, mais qu'on le fait à notre manière? Ce qui veut dire qu'on a créé cet outil, Label Emmaüs. Vous pouvez aller sur Label, vous pouvez acheter des fringues, des meubles, des livres, beaucoup, beaucoup de livres, des bibelots, etc. Et ce sont donc les structures Emmaüs qui sont des vendeurs, c'est une place de marché solidaire, quoi. Ils sont vendeurs sur Label Emmaüs. Il y a aussi des structures de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire, qui ne sont, pardon.
Merci.
Les acronymes, on en a beaucoup nous, qui ne sont pas Emmaüs. Et donc, c'est l'idée de dire, on va, alors, concurrencer Amazon, c'est beaucoup dire, on n'est pas, dans la même cour, mais enfin, voilà. Donc, je vous incite, si vous avez envie d'acheter un produit d'occasion, allez plutôt sur Label Emmaüs. Et d'autre part, on l'a fait différemment, donc, puisque ce sont des produits qui viennent de vendeurs solidaires, et on l'a fait aussi différemment dans la structuration de Label. C'est une coopérative avec une gouvernance démocratique. Il n'y a pas de rémunération de l'actionnaire. Les salaires vont de 1 à 3. On applique aussi là-dedans des règles très différentes de ce qui est fait dans le digital ailleurs. Donc là aussi, et comme souvent, on est sur un créneau qui existe dans la vie marchande et lucrative, mais on le fait différemment.
Qu'est-ce que vous faites de l'argent récolté lorsque vous réussissez à vendre? On l'a dit tout à l'heure un petit peu rapidement, mais cet argent, tu as parlé de coopérative, tu as parlé de gestion démocratique de la structure, mais l'argent récolté, ça soutient, tu parlais des compagnons d'Emmaüs. Mm-hmm. C'est quoi votre programme social derrière?
Alors bon, je vais être rapide parce qu'Emmaüs, c'est une galaxie qui est assez compliquée. En gros, on a 3 branches, 3 types de métiers. Le point commun de tout ça, c'est l'accueil des personnes les plus en difficulté. Emmaüs, c'est vraiment... Il y avait une formule de l'abbé Pierre qu'on n'utilise plus beaucoup parce qu'elle est un peu catho, mais elle parle quand même pas mal. C'était servir premier le plus souffrant. Donc, quoi qu'on fasse, et dans quelques secteurs qu'on soit, nous, on va toujours chercher les gens les plus loin. Je prends un exemple. Aujourd'hui, on accueille beaucoup d'exilés et de personnes sans papier. Ouais. L'accueil inconditionnel est quelque chose de très important chez nous. Et on considère qu'aujourd'hui, parmi les gens les plus en difficulté, il y a la question des exilés et des migrants. Donc, on a une première branche, ce sont les communautés Emmaüs. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà été dans une communauté
Emmaüs. Moi, je ne connais pas, non, explique-moi.
Jamais allé dans une communauté Emmaüs ?
Non, jamais, je te jure.
C'est impossible, ça.
Mais non, mais raconte-moi.
Ah, alors, une
communauté... Et combien même, vas-y, explique-nous.
Il y en a 122 et ça accueille 7000 personnes par an, 7000 compagnes et compagnons, qui sont des gens qui, en général, étaient à la rue. Ils arrivent dans une communauté, c'est un lieu où ils sont hébergés, donc il y a des logements. Il y a des petites chambres, voire des appartements. Il y a des ateliers et il y a des salles de vente. Et donc, les personnes rentrent pour la durée qui leur est nécessaire. Ça aussi, c'est très caractéristique. C'est-à-dire que si ils ont besoin juste d'un jour ou deux pour se requinquer et repartent faire la route, pas de problème. On appelle ça des passagers. Mais s'ils ont besoin de rester 30 ans parce qu'ils ont trouvé là un univers qui leur va bien, ça va aussi. Et ça, c'est assez original parce que le problème de l'action sociale en France, c'est que souvent, on essaye de remettre des gens dans des cases.
Dans les dispositifs,
dispositifs, je vois ce que tu veux dire. Tu peux rester deux ans, il faut que tu aies tel truc, tu sois au chômage depuis tant, que tu sois que t'aies tel âge, etc. Or, quand on est dans une situation d'exclusion, c'est précisément qu'on n'a pas pu rentrer dans les cases de la société. Donc nous, c'est aussi une de nos visions chez Emmaüs, c'est adapter les solutions aux personnes et pas l'inverse. Bon, bref. Donc du coup, une communauté, vous arrivez, vous avez besoin de rester trois jours, vous restez trois jours, vous allez bosser pendant trois jours, vous allez faire de la collecte, vous allez faire du tri, vous allez faire... Et vous avez besoin de rester 30 ans, vous restez 30 ans. Donc des lieux de vie, d'accueil et d'activité... Et qui ont une caractéristique, c'est qu'elles ne touchent pas de subventions. Elles ne vivent que...
Il n'y a aucune subvention,
non,
Emmaüs,
il y a aucune
ne touche pas d'argent de l'État.
Alors, ça dépend, mais là, dans les communautés, non. Pourquoi,
les communautés, non,
pourquoi est-ce qu'on n'a pas de subvention?
Parce que vous n'en demandez pas? Parce que vous ne voulez pas?
Parce qu'on ne veut pas en demander.
Ouais, c'est ça.
Et pourquoi on ne veut pas en demander? Parce qu'on veut être libre de notre projet social. Si on a des subventions, il faut rentrer dans un cadre. Nous, on ne veut pas rentrer dans un cadre, et notamment, on veut pouvoir faire de l'accueil inconditionnel. Aujourd'hui, dans les communautés Emmaüs, il y a 60 à 70% de personnes sans papier. Mais c'est un choix, parce que ces personnes-là, elles ne peuvent aller nulle part ailleurs.
Et on connaît des conseils régionaux qui pourraient vous sucrer des subventions si s'ils n'étaient pas d'accord
ou
avec
l'État,
ça.
Exactement, ou l'État.
Oui, je vois très bien le genre.
Donc du coup, des structures qui sont très particulières, parce qu'elles accueillent des gens très en difficulté, avec de l'accueil inconditionnel, avec une adaptation aux besoins des personnes, et une activité économique qui est celle de la récup, d'où le danger... Ouais. Et on en revient à la conversation précédente. Et puis après, on a des structures plus classiques qui sont des structures d'action sociale et d'hébergement pur. Là, elles peuvent être financées par des subventions d'État. Par exemple, il y a un gros acteur à Paris qui s'appelle Emmaüs Solidarité. Il y a 200 ou 250 centres. Donc voilà, des accueils de jour, des centres où les gens peuvent rester une nuit ou plus. Et puis après, il y a la Fondation Abbé Pierre aussi, qui est assez connue, qui est dans cette branche-là, sur le logement. On a une SA HLM... où il y a 15 000 logements en Île-de-France. Et après, on a la branche qu'on appelle insertion. Et là, il y a des structures, 90 structures d'insertion à peu près. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ce que c'est qu'une structure d'insertion, mais c'est des salariés, des personnes qui sont en salariat pendant deux ans maximum et qui vont être accompagnées sur leurs problématiques sociales. Elles vont travailler, mais elles vont aussi avoir un accompagnement. Et ces personnes-là aussi sont sur les activités de récup. Donc l'activité de récup... Elle concerne les communautés et les structures d'insertion.
Effectivement, c'est une belle galaxie Emmaüs, beaucoup d'actions depuis plusieurs décennies. J'ai vu quelqu'un dans le chat qui posait la question, pourquoi ça s'appelle Emmaüs ? Ça vient d'où ?
Alors Emmaüs, c'est le nom d'un village en Palestine. Alors n'oublions pas que Emmaüs a été fondé par un curé, personne n'est parfait. Et,
et
donc,
oui, l'abbé Pierre,
oui. Bah oui, c'était l'abbé Pierre. Et, mais c'était amusant parce que c'était un curé et on était en 49, donc on aurait pu penser... qu'il allait faire une association caritative. Ben, il n'a pas du tout fait ça, l'abbé Pierre.
Ouais.
Parce qu'il a eu cette intuition de dire on remet les gens debout, pas uniquement en leur donnant à manger ou en leur donnant un toit. Oui, il faut le faire. Mais pour les remettre debout, il faut leur redonner l'autonomie. Parce que la pauvreté, c'est la perte de l'autonomie. Quand on est dans la pauvreté, on se retrouve dans un truc où on subit tout. Et donc, il faut rendre les gens acteurs de leur vie et de leur projet. Et on les rend acteurs au travers de l'activité économique. Et c'est là où il a commencé, la Chine et la bif, etc. Bon, alors, donc je reviens à la question, je m'éloigne
donc,
un peu.
Donc Emmaüs, c'est dans la Bible, en fait, c'est un village...
Donc Emmaüs, c'est un village en Palestine où les apôtres, qui étaient désespérés parce que le Christ était mort, donc ils erraient, ils se retrouvaient dans ce village, et là, ils ont une apparition de quelqu'un qui arrive, et ils vont se rendre compte après qu'en fait, c'est le Christ ressuscité. Donc Emmaüs, c'est le village où on retrouve l'espoir.
D'accord, ok,
voilà.
Donc ça vient de là. Ok, d'accord. Bon, Valérie, on a dit beaucoup de choses ce soir. C'est quoi le message que tu veux faire passer? Donnez vos vêtements, ne les revendez pas. C'est un geste solidaire, c'est ça le premier message qu'on peut faire passer.
Oui, alors vos vêtements et pas que, hein,
et
encore
pas
une
que.
Fois.
Voilà, d'ailleurs, donner, oui, du coup, les meubles.
Les meubles, les livres, l'électro, les ordi, les téléphones, les jouets.
Ok.
Vous pouvez donner absolument tout à Emmaüs, c'est un peu la caverne d'Alibaba. D'ailleurs, c'est ça qui est intéressant chez Emmaüs, c'est qu'on trouve des choses qu'on trouve nulle part ailleurs. Donc, réfléchissez bien, quand vous avez quelque chose dont vous ne vous servez plus, avant d'aller le vendre, ou si vous le gardez dans vos tiroirs, ce qui n'est pas non plus terrible, donnez-le nous, parce que là, vous allez participer à un projet solidaire. Si vous vendez votre objet sur le Bon Coin ou Vinted, alors c'est parfait, vous êtes un homo economicus, vous renforcez tous ceux qui pensent que la société est faite d'un cumul d'intérêts, que la valeur n'est que monétaire, et que ce qui fait avancer les gens, c'est de gagner de l'argent et d'être en compétition les uns avec les autres. Nous, on n'a pas du tout cette vision-là. Si vous donnez à Emmaüs, bah, vous êtes dans une autre vision qui est de dire que la société a besoin de solidarité. Cette solidarité, elle est agie par des acteurs comme nous. Et que finalement, donner quelque chose, c'est pas très compliqué. Les gens, quelquefois, ils disent, je sais pas quoi faire, j'ai pas le temps d'être militant, mais je comprends bien, je sais bien qu'il y a des problèmes, mais je sais pas quoi faire.
C'est une belle manière d'être
voilà,
solidaire.
Donner, c'est être solidaire facilement.
Il y a quelqu'un dans le chat qui demande si on n'a pas de voiture, on peut aussi se mettre en relation avec Emmaüs qui peut éventuellement venir chercher aussi.
Oui, tout à fait. Alors, si vous avez des trucs pas trop lourds, vous pouvez les amener dans l'Emmaüs près de chez vous, mais sinon, vous appelez l'Emmaüs le plus près de chez vous. Alors, vous allez sur le site emmaüs-france.org. Il y a un petit module, c'est où donner ou acheter. Vous cliquez, vous rentrez votre code postal et là, vous allez trouver l'Emmaüs le plus près de chez vous. Et si vous pouvez pas vous déplacer et que vous avez des choses un peu encombrantes, vous appelez et on vient chercher à domicile. Alors, un peu de délai, hein, parce que souvent les gens râlent en disant bah oui, mais les Emmaüs, ils veulent pas venir. Mais bon, on fait ce qu'on peut.
File un coup de main, n'hésitez pas à devenir bénévole Emmaüs aussi.
Absolument, si mais exactement, c'est un autre message. Oui.
Ouais, donc du coup, on l'a dit, ouais, donnez vos vêtements et ce que vous pouvez de seconde main Emmaüs, c'est un geste solidaire. Allez-y mollo sur la fast fashion, on peut le dire aussi.
Ah bah complètement, allez-y mollo sur la fast fashion et surtout, réinterrogez-vous sur le modèle de société que vous voulez. Encore une fois, nous prenons un modèle de la sobriété. Alors, pour reprendre Abby, la sobriété heureuse, c'est-à-dire pas une sobriété punitive, etc., mais de dire que un modèle dans lequel on consomme des choses qui sont de mauvaise qualité et avec une espèce de frénésie, on est toujours dans la frustration, c'est pas un modèle qui rend heureux. Voilà, donc il y a un autre modèle possible qui est d'acheter moins, des choses de meilleure qualité, qui vont être produites par des gens dans des meilleures conditions, et que nous, quand on les récupérera, on pourra les réparer et la seconde vie pourra durer plus longtemps.
Et vous pouvez aussi aller sur label-emmaüs.co pour acheter, et c'est une boutique comme les autres, je suppose, on remplit son panier, on peut se faire livrer.
Exactement, c'est une place de marché solidaire comme une autre, sauf que ça ne va pas rémunérer un actionnaire.
Et ça fait des super messages. Merci Valérie d'être venue sur le plateau de Backseat pour présenter cette action d'Emmaüs.